découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio.
Bonjour Véronique.
Bonjour Fabrice.
Véronique, vous me regardez comme ça avec un air bizarre. Qu'est-ce qui se passe?
Mais je regarde toujours avec un air bizarre.
Allez, concentré, c'est la rentrée. Alors, première émission, c'est vrai qu'on a fait une rentrée un peu tardive sur Nutri Radio, mais bon, on prend son temps parce que Véronique n'est pas toujours disponible. Donc on se cale sur son agenda. Mais voilà, ça fait plaisir de vous retrouver, Véronique.
Mais oui, c'est vrai, on se disait l'été est passé.
L'été est passé
à une vitesse incroyable.
On l'a pas vu. Et vous avez fait quoi de beau? Vous n'êtes pas bronzé par contre, vous, hein?
Non, moi je suis
vous,
pas.
Le soleil,
le soleil n'est pas toujours mon ami.
C'est
non.
Pas la stratégie.
Non.
D'accord, mais c'est bien parce qu'au moins, ce teint vous va ravir. On explique que l'exposition au soleil n'est pas forcément une bonne solution. On le voit avec vous. Voilà, ça marche. Vous voyez que
absolument.
Moi, par contre, je suis allé un peu au soleil.
Hein. Mais c'est constant.
C'est un petit peu constant. La révolution microbiote, c'est reparti donc pour une nouvelle saison sur Nutri Radio avec quelques petits changements cette année, puisqu'on aura l'occasion de vous proposer des émissions inédites comme aujourd'hui avec une invitée spéciale que je vous laisse présenter, Véronique.
Alors, une invitée spéciale, mais vous voulez dire une invitée exceptionnelle?
Ah oui, exceptionnelle, spéciale,
ah ben oui.
Exceptionnelle,
ah ben
unique,
oui.
unique.
Aujourd'hui, on a le grand plaisir de partager le temps de cette émission avec Zoé. Zoé No Gluten, hein, qui n'est pas son vrai nom, mais Zoé qui a sur Instagram, qui nous partage toutes ses recettes absolument incroyables. Et ben, vous l'aurez compris, Zoé No Gluten, on va parler du gluten. Puisque quand moi je fais une chronique sur le gluten sur Instagram, je peux vous dire qu'à tous les coups, ça cartonne. C'est un sujet qui passionne les foules, qui les divise aussi beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas toujours le reflet de la réalité, dans les deux sens d'ailleurs. Et donc Zoé, ben, vous connaissez sûrement tous et toutes Zoé, notamment par ses réseaux sociaux, eh bien, elle est notre invitée et on l'accueille. Bonjour Zoé.
Bonjour Véronique, bonjour Fabrice, merci beaucoup pour cette introduction du tonnerre là.
Ah ben on est à fond, hein, c'est la rentrée, on est à bloc.
Ouais, ouais, je veux dire Zoé, ça fait 15
jours. D'être là.
Ça fait 15 jours que Véronique, c'est Zoé par-ci, Zoé par-là, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe?
Non,
on
mais
est content.
Moi je voulais respecter le timing, Zoé elle a un agenda.
Non, mais ce qui est bien.
Et donc il faut respecter l'agenda,
oui,
de nos invités.
Non mais ce qui est bien c'est que Zoé effectivement est très populaire sur Instagram, elle s'attaque à un sujet qui est, vous l'avez dit, gluten, pas gluten, on a tous une idée sur ça, alors qu'on n'y connaît pas vraiment grand-chose en réalité.
Mais en réalité, il y a beaucoup d'études aussi qui vont un peu dans les deux sens, et donc l'idée, c'est de retrouver un peu de bon sens et de raison. Et donc, alors Zoé, elle va nous aider à ça. Alors évidemment, Zoé, No Gluten, ben, vous avez bien compris que Zoé ne mange pas de gluten, mais Zoé, elle a toutes les raisons de ne pas en manger, n'est-ce pas Zoé?
Oui, c'est ça. Bah, c'est sûr que le gluten, bien, mal, on en parle beaucoup, mais en fait, on fait pas trop la différence entre qui devrait en manger et qui devrait pas en manger. Dans mon cas, j'en mange pas du tout parce que j'ai la maladie cœliaque. Donc, c'est une maladie auto-immune qui touche 1% de la population européenne. Et en fait, très rapidement, si je mange du gluten, il attaque mes parois intestinales, il les détruit finalement. Donc, moi, j'ai pas le droit d'en manger du tout, même une miette me rend malade. C'est pas du tout le cas de toutes les personnes qui décident de manger sans gluten. Donc il y a plein d'autres raisons de manger sans gluten aussi, mais qui vont pas forcément être aussi contraignantes et pour lesquelles on devra pas forcément arrêter tout le gluten de la même manière que moi je suis contrainte de le faire.
Voilà, c'est zéro tolérance. Donc ça c'est vraiment le cas dans lequel ben, tout le monde est d'accord. En fait, ouais. Quand on est atteint de la maladie cœliaque, c'est zéro tolérance, rien du tout. Et Zoé, tu peux nous dire un petit peu comment tu t'en es rendu compte, parce qu'on ne se rend pas compte de ça fatalement à la naissance.
Alors, la maladie cœliaque, c'est une maladie qui est auto-immune et qui est génétique. Si on a les gènes, on peut développer la maladie ou non. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement pourquoi certaines personnes ayant les gènes la développent ou pas. Alors, elle peut se développer à la naissance. Dans mon cas, elle s'est développée plus tardivement, en fin d'adolescence, vers 17 ans. Les symptômes de la maladie cœliaque sont très, très variés et très variables. On peut même être asymptomatique dans certains cas. Donc voilà, moi, mes symptômes étaient une énorme fatigue, une irritabilité, des symptômes même de dépression, très mal au ventre, plus faim, enfin je voulais plus manger, j'avais des ballonnements, des gaz très très désagréables. Voilà, des odeurs pas agréables non plus, et c'est tout ça qui a fait que on s'est penché sur le sujet, que j'ai fait plein de tests médicaux et qu'on a découvert cette maladie cœliaque par une prise de sang, tout simplement, oui, dans un premier temps, et on a confirmé le diagnostic avec ce qu'on appelle une gastroscopie.
Ok, et une biopsie, j'imagine.
C'est ça, voilà, voilà. La gastroscopie, donc c'est une biopsie de l'intestin. Donc, on prend un petit morceau de tissu pour aller voir si l'intestin est en bonne santé ou non, globalement, pour synthétiser. Et s'il n'est pas en bonne santé, ben, ça confirme le diagnostic de maladie.
Ben ça, c'est le protocole actuel. Donc, en effet, comme tu l'as dit, ça commence par une prise de sang dans laquelle, alors c'est important de le signaler, on ne va pas doser des IgG, des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent et qui, sur un simple dosage, disent « je suis allergique ou intolérant au gluten ». Non, c'est vraiment des auto-anticorps bien spécifiques qui sont dosés et qui permettent de faire, en tout cas, ce premier diagnostic qui va être confirmé avec une biopsie. Et tu l'as dit, et ça, c'est très intéressant. Bien sûr, il y a des symptômes digestifs, mais il y a des symptômes extra-digestif, tu as parlé notamment de dépression, et ça c'est aussi intéressant de mettre en avant eh bien, le lien entre l'intestin et le cerveau, hein. On en a déjà beaucoup parlé dans ces émissions, ce fameux axe intestin-cerveau qui a évidemment toute son importance. Donc première catégorie, on a les personnes atteintes de la maladie cœliaque. Depuis quelques années, ça fait quoi ? Je dirais 15-20 ans, on parle maintenant d'hypersensibilité non cœliaque au gluten. Donc ce sont des personnes qui sont finalement pas atteintes de la maladie cœliaque et qui ont malgré tout développé des symptômes, et c'est aujourd'hui une vraie entité médicale. Donc deuxième cas dans lequel eh bien, il est évidemment intéressant de ne pas consommer du gluten, même si les conséquences sur la santé sont un petit peu moins graves, je dirais, que quand on est atteint de la maladie cœliaque.
En fait, elles peuvent être très désagréables aussi. La grosse différence entre la maladie cœliaque et l'hypersensibilité non cœliaque au gluten, c'est les conséquences sur le long terme, finalement. Dans le cas de la maladie cœliaque, il y a une vraie détérioration de la paroi intestinale, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'hypersensibilité. Par contre, les symptômes court terme, quand on est hypersensible au gluten, peuvent être les mêmes, voire plus désagréables dans certains cas que quand on a la maladie cœliaque.
C'est ça, des symptômes digestifs, mais comme on l'a dit aussi, extra-digestifs, donc problèmes de mémoire, problèmes d'humeur, de la fatigue absolument disproportionnée. Et donc, il y a des conséquences et ces personnes-là ont aussi intérêt à ne pas consommer de gluten. Et puis, il y a une espèce de tendance aujourd'hui que l'on observe qui a tendance à diaboliser un petit peu le gluten, et je trouve parfois de façon excessive, et en même temps c'est pas sans raison. C'est vrai qu'il y a des publications qui ont tendance à montrer que le gluten peut avoir un caractère un petit peu pro-inflammatoire sur la membrane intestinale, mais apparemment les conséquences sont très court terme et elles ne sont pas présentes chez tout le monde. Est-ce que toi, tu t'es intéressé finalement à ces effets du gluten chez cette catégorie de personnes, ou c'est quelque chose qui...
Voilà. Un petit peu, oui, tout à fait. J'ai essayé de m'interroger quand même sur ce qu'était ce fameux gluten. Alors, il y a gluten et gluten, j'ai envie de dire, parce que pas toutes les céréales, en tout cas, se valent. Si on prend des céréales anciennes, plus complètes, etc., ça peut être meilleur pour la santé que d'essayer de manger des alternatives sans gluten qui parfois sont même plus délétères pour la santé de manière générale.
Donc, le sarrasin, par exemple, ou le petit épeautre, ou ce genre de choses, tu veux dire.
Le sarrasin est même sans gluten, mais le petit épeautre, effectivement, est une très chaude céréale qui contient du gluten, mais qui ne va pas du tout être mauvais pour la santé. Donc, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on consomme aussi.
Oui, et puis on sait aujourd'hui qu'il y a du gluten qui est ajouté dans certaines préparations pour rendre les aliments plus moelleux.
Tout à fait. En fait, le gluten, déjà, c'est un mot qui fait très peur aujourd'hui, mais il faut rappeler que c'est une protéine. À la base, c'est la protéine du blé. Et c'est pour ça qu'on en ajoute dans toutes sortes d'aliments, parce que ça ajoute des protéines et parce que c'est ça qui donne la texture moelleuse et intéressante. Et qu'on aime bien, en fait, au pain, aux pâtisseries, etc.
Et oui, malheureusement, c'est ça qui peut poser problème. Et c'est vrai, comme tu dis, qu'aujourd'hui, finalement, ce niveau de transformation de l'aliment est presque autant responsable des problèmes que le gluten lui-même. Et il y a beaucoup de publications, par ailleurs, qui tendent à montrer que finalement, dans certains cas, c'est pas le gluten le problème, mais ce sont les additifs qui sont ajoutés dans les préparations ou d'autres fractions du blé. Éventuellement. Donc, c'est pas toujours le gluten qui est responsable. Et donc, voilà, je crois qu'on va faire une petite pause parce que je vois que Fabrice lève la main.
C'est pas du tout radiophonique ce que vous faites là.
Non.
Quand je lève la main, c'est confidentiel, vous voyez. Vous devez faire un atterrissage en douceur, sans trahison. Parce que même Zoé, qui n'est pas en studio avec nous, se demande pourquoi vous avez interrompu cette phrase. Vous étiez mal parti, de toute façon, je ne sais même pas où vous alliez avec cette phrase.
Non, moi j'allais bien. J'étais bien.
On marque une petite pause, le mec, il est ignoble. Tout ça. Non,
c'est un monstre.
On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant avec Zoé, nous gluten et vous, Véronique Lès et son Nutri Radio. Restez avec nous.
La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio.
Merci de nous rejoindre à l'instant peut-être sur Nutri Radio avec une Véronique Lies que j'ai rarement...
Maltraitée.
Non, que j'ai rarement vue aussi concentrée, studieuse. Et là avec notre invité, on remercie aussi Zoé Nogluten d'avoir pris le temps ce matin de répondre à nos questions, à notre invitation. Vous venez quand vous voulez, hein, Zoé, pour nous partager plutôt ces informations concernant le gluten et puis des recettes sur Insta. On rappelle que voilà, vous êtes très populaire sur Insta. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui connaissent Zoé Nogluten que Nutri Radio. Donc, si vous pouvez nous aider à faire la promotion.
C'est clair.
Non, mais comme quoi elle est cool parce qu'elle pourrait se dire non, mais Nutri Radio, je m'en fous. Alors, on a quand même une qualité d'audience rare. Mais Zoé, merci. Merci.
Je suis trop heureuse d'être là, moi.
Bah non, mais merci. Voilà, et vous avez aussi votre podcast santé différemment qui est présent partout. Et alors tiens, avant de reprendre la conversation, je vois que vous étiez aussi ex-maîtresse en CE2, CM2. Ça vous manque pas un petit peu tout ça?
Ah si, j'adore. C'est vraiment une vocation pour moi. J'ai adoré enseigner. On peut pas tout faire en même temps, donc faut faire des choix. Mais si, ça me manque parfois, souvent.
Est-ce que vous dites tiens, je vais essayer de concilier ce métier là aujourd'hui qui est assez médiatique et peut-être des interventions dans les classes en CE2, en CM2 pour aller sensibiliser les jeunes à l'alimentation, au gluten, au no-gluten. Ça peut être des bonnes idées aussi, des petits ateliers.
J'aimerais beaucoup. Oui. C'est des choses auxquelles je réfléchis, tout à fait.
Bon, écoutez, on sait que le ministre de l'Éducation nous écoute régulièrement, donc autant dire que c'est comme si c'était fait.
Tous les jours, voilà.
Avec plaisir, hein, si jamais il y a des idées dans l'Assemblée, je prends.
Ça bouge un peu, politiquement, ça bouge un peu, mais bon. Alors, Véronique, vous étiez empêtrée dans une phrase,
mais j'étais
très mal
partie. Mais je n'étais pas du tout empêtrée, absolument pas. J'avais ma ligne, mais là, vous m'avez coupée, évidemment, comme d'habitude. Donc, Zoé, n'écoutez pas les bêtises de Fabrice. Restons concentrés. J'étais en train de parler de niveau de transformation des aliments et finalement de cette difficulté d'identifier les vrais problèmes. Et quelque part, toi, tu as trouvé la solution puisque dans les préparations que tu partages sur Instagram, bien évidemment, tu les fais avec c'est des recettes maison. Donc, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas. Donc, le problème ne se pose même pas. Et je voulais un peu savoir comment tu étais parvenue à faire ce que tu fais. Alors, on parlait d'enseignement. Finalement, c'est pas si loin. Tu restes dans la transmission.
C'est ça. Comment est-ce que j'ai commencé à faire ce que je fais? Écoute, beaucoup de personnes sont un petit peu interloquées quand je dis ça, mais en fait, moi, je détestais cuisiner et j'ai commencé à cuisiner sur Instagram. En fait, les premières recettes que j'ai faites chez moi, je les ai partagées sur Instagram en me disant que bah, comme ça, je créerai une communauté de gens qui, comme moi, doivent ou décident de manger sans gluten pour plein de raisons différentes et se lancent et galèrent et qu'on allait apprendre ensemble. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi dans mes recettes, c'est que ça reste des recettes qui sont très, très accessibles avec des aliments qu'on peut trouver en supermarché facilement, un petit peu partout, qui prennent pas 40 000 heures à préparer avec un matériel très restreint aussi. Et pour des gens pressés, quoi.
Ah ben voilà. Je confirme, hein, c'est vraiment. Alors c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est vraiment des ingrédients de base et tu arrives à en faire des trucs mais qui ont l'air juste divins et finalement que tout le monde peut manger. On n'a pas besoin de devoir manger sans gluten pour apprécier les préparations que tu fais. Et comment tu fais pour, parce que là quand même ça fait un petit temps que ça dure, comment tu fais pour te renouveler comme ça? Est-ce que parfois tu t'intéresses et tu recherches des nouveaux ingrédients justement un peu différents?
Ouais, tout à fait. Bref, c'est une bonne question. Alors, il y a 2 semaines où je suis très inspirée, où j'ai plein d'idées, puis il y a 2 semaines où j'ai pas trop d'idées. Ça, c'est normal, c'est comme ça. Mais non, je lis beaucoup de livres de cuisine. Et puis, en voyageant, on a plein d'idées aussi. Quand on sort au restaurant, on regarde ce qui se fait ailleurs. Voilà. Et puis après, oui, quand il y a des nouveaux ingrédients, c'est toujours des opportunités d'avoir des nouvelles idées de recettes. Quand je fais mes courses, par exemple, j'essaie toujours au moins d'acheter un ingrédient que j'ai pas l'habitude d'acheter, un légume, un fruit, un produit que je connais pas et que j'essaye d'incorporer dans mes recettes pour ajouter de la nouveauté.
Alors justement, tiens, j'interviens dans cette conversation puisque dans vos publications, je vois l'arnaque du kombucha. Je veux bien que vous en parliez parce que visiblement, normalement, boisson fermentée, il faut, c'est plutôt très positif. Et là, l'arnaque du kombucha. Alors, j'ai pas lu, j'ai pas cliqué, mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est un titre d'appel choc.
C'est un titre d'appel, effectivement. Non, le kombucha, c'est très chouette, c'est très bon. On en trouve en fait en magasin qui est pasteurisé de temps en temps. Et le titre, en fait, voulait dire qu'il faut faire attention au kombucha qu'on achète parce que l'idée du kombucha, c'est qu'il y a des bactéries vivantes à l'intérieur et on en trouve certains sans bactéries du tout. Donc, il reste le goût, mais il reste plus beaucoup de bienfaits du kombucha.
Et le sucre, du coup.
Le sucre, oui, voilà.
Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas les bactéries, elles ne consomment pas, il n'y a pas de fermentation possible, donc du coup, ce sucre va rester, donc ça devient un soda, en fait, en quelque sorte.
Tout à fait. En fait, j'en avais vu pas mal en magasin. Je me suis dit, c'est quand même dingue, parce qu'on le paye, on a l'impression de se faire du bien, et finalement, on n'a pas beaucoup des bienfaits.
Comment on reconnaît un bon kombucha d'un mauvais kombucha? Il faut, sur l'étiquette, j'imagine, il y a des indications précises auxquelles il faut faire attention.
Déjà, il se trouve au rayon frais, parce que s'il se trouve au rayon épicerie, il y a peu de chances qu'il soit, qu'il ait tous les bienfaits escomptés. Et puis c'est écrit souvent non pasteurisé. Ouais.
Voilà, si c'est pasteurisé, ça veut dire que ça a été chauffé. Si ça a été chauffé, même légèrement, ben, fatalement, ça détruit les bactéries.
Oui, les petites infos.
Alors il en reste encore à l'intérieur, hein, mais il y en a beaucoup moins quand même.
Voilà. Ben c'est vrai pour le vinaigre aussi. Hein. Un bon vinaigre, idéalement, il est non pasteurisé, ce qui permet d'avoir un réel aliment vivant. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est ça la clé, c'est de manger vivant.
Est-ce que vous avez fait un bouquin?
Moi, oui, j'ai deux livres de cuisine, ouais.
Ah, d'accord, ok.
Deux livres de cuisine aux éditions Marabout, sortis en 2023 et 2024. Avec des recettes très faciles du quotidien, toujours. C'est un petit peu ma clé parce que personnellement, j'avais peur même de cuisiner en me disant que c'était trop compliqué, qu'il y avait trop d'ingrédients, trop de matériel, que j'avais pas le temps, pas envie d'y dédier mon temps en tout cas. Et là, c'est un peu prendre le contre-pied de tout ça et de dire qu'en fait, ça doit pas prendre beaucoup de temps et qu'on peut manger moins transformé avec des aliments bruts qu'on trouve en supermarché et partout, pas trop cher et bon pour la santé et facilement chez soi, quoi.
Et ce qui permet d'éviter justement d'avoir recours à ces aliments étiquetés sans gluten qui, on va pas se mentir, explosent dans les rayons, hein, puisque c'est devenu vraiment une mode, et qui sont, à mon sens, extrêmement problématiques, parce qu'on a parlé des additifs, mais aussi dans le choix des ingrédients. On sait qu'il y a pas mal d'ingrédients qui ont quand même ce qu'on appelle un index glycémique élevé, donc qui vont élever rapidement la glycémie, donc ce qui peut avoir potentiellement un impact sur la santé, hein, parce qu'être en permanence en hyperglycémie, hyperinsulinisme, bah, c'est pas top. On a parlé évidemment aussi de ces additifs, et il y en a beaucoup, des émulsifiants, des colorants. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de revenir à une alimentation de base, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a pas mal de publications qui montrent que le fait de manger sans gluten a un impact délétère sur la composition du microbiote. Et ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus maintenant, les publications font quand même la distinction entre manger sans gluten avec des aliments étiquetés sans gluten dans le commerce et manger sans gluten avec des aliments qu'on prépare soi-même et qui vont apporter d'autres bons nutriments. Et donc, je rappelle, on l'a dit, mais c'est quand même important, le gluten n'est pas responsable de tous les maux. On sait que il y a des personnes qui sont, par exemple, qui ne supportent pas les fructanes et qui pourraient d'ailleurs induire plus de symptômes que le gluten chez des patients qui se disent sensibles au gluten. Donc attention quand même de ne pas tomber dans ce piège absolu du sans gluten. Mais je rappelle que toutes les recettes de Zoé restent valables.
Ça, c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que quand on a une insensibilité, enfin quand on est sensible au gluten et dans le cadre d'une maladie cœliaque, on pourrait se dire je vais acheter des aliments sans gluten. Mais ce n'est pas toujours garanti de bonne santé, de meilleure santé. Donc autant cuisiner soi-même et donc effectivement suivre les recettes de Zoé.
Mais pas les diaboliser non plus, parce que c'est vrai qu'ils peuvent, dans mon cas en tout cas, dépanner de temps en temps. Voilà. Et puis c'est pas grave d'en manger de temps en temps. Si on a envie d'acheter un paquet de biscuits industriels, c'est super. Mais c'est vrai qu'en mangeant tous les jours...
Oh là là, ça sent le partenariat avec Lu.
Pas du tout. Alors, pas du tout. Mais c'est sûr que c'est pas une bonne idée d'en manger tous les jours et essayer de toute manière de remplacer le pain classique ou les gâteaux classiques par des gâteaux sans gluten industriel en se disant que c'est meilleur pour notre santé, franchement, c'est encore pire. Parce que le gluten, c'est une protéine. Quand on le supprime, il faut essayer de le remplacer par autre chose qui fait, voilà, pour remplacer son rôle. Et souvent, cette autre chose, c'est du sucre, du gras et toutes sortes d'additifs dont on ne sait même pas prononcer le nom.
Mais ce que tu dis est vrai pour tout. C'est-à-dire que, de manière générale, manger des produits naturels est bien meilleur, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire plaisir de temps en temps avec des choses toutes faites qu'on va acheter. Mais ça ne peut pas être la majorité des aliments que l'on consomme.
Alors, est-ce que vous êtes approché par...
On va penser que c'est meilleur pour notre santé.
C'est ça.
Zoé, on va terminer cette émission. Est-ce que vous êtes, parce qu'avec la communauté que vous avez, forcément, j'imagine qu'il y a des marques sans gluten qui vous proposent des partenariats, qui collaborent. Est-ce que vous collaborez avec elles? Est-ce que vous vérifiez un petit peu les produits? Est-ce que le genre de... Enfin, les collaborations dans lesquelles vous vous engagez?
Bien sûr, moi je vérifie toujours et il y a la majorité des collaborations qu'on me propose, je refuse, tout simplement parce que oui, soit c'est pas des produits que j'ai envie de mettre en avant, et quand je dis que j'ai pas envie de les mettre en avant, c'est parce que je les consommerai pas moi-même et que je les consomme pas moi-même. Donc je travaille qu'avec des marques que je consomme à titre personnel, voilà. Bah, et je travaille pas avec énormément de marques sans gluten industriel, d'ailleurs, ça me fait penser.
D'accord. Alors, toutes les marques.
Non, c'est vrai, c'est plutôt, on va pas le citer, mais plutôt des sites qui vendent des ingrédients, on va dire, naturels, qu'on va utiliser dans les préparations. Et voilà.
Bien. Bon, ben voilà. Mais merci beaucoup, en tout cas, Zoé. Merci d'avoir pris ce temps. Vraiment, c'était très sympa de vous avoir et très intéressant. Ça a permis aussi à Véronique de préparer pour la première fois son émission. Donc, merci à vous.
Oh, la mauvaise langue. Mais Zoé, tu vois comme je suis maltraitée, c'est incroyable.
C'est pas sympa comme ambiance de travail, non, quand même. Hein. Il faudrait faire plus
attention. C'est la rentrée en plus, je te raconte pas. Après, ce que je vais prendre.
Non, merci beaucoup, c'était très sympa comme moment. J'ai bien aimé passer cette matinée avec vous.
Merci beaucoup.
À bientôt,
Zoé.
Merci beaucoup. Cette émission est disponible en podcast tout de suite après. Si vous venez d'arriver sur le live de Nutri Radio et de cette émission, elle est disponible dès maintenant sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. On va se retrouver la semaine prochaine avec une Véronique Lès en pleine forme. Quel sera votre prochain invité? Vous avez mis la barre très haute. À la semaine prochaine.
La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio.